France Culture.
Ceci est une annonce, pas une conférence de presse. Il n'y aura donc pas de questions à la fin. Parallax View et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui clôt en ce samedi sa saison vidéo cinéphilique par un cocktail aux saveurs mêlées de sang, de sueur et d'adrénaline. Seront en effet évoqués tout au long de ce bouquet final deux monuments du cinéma américano-paranoïaque, Second de John Frankenheimer et À cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula paru respectivement chez Sidonis et Carlotta. La résidence de Narciso Ibanez Serrador, un Betara movie de 1972 somptueusement réédité chez Sidonis, toujours eux, nous fermeront le bon avec leur redoutable Tendresse des loups 1973, hommage Fassbinderien, d'Uli Lommel à M le maudit et à Nosferatu, une parution Carlotta, encore eux. Par la paranoïa, morsure et coup de ceinture, vous en voulez, vous en aurez, bienvenue dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre Cinéma pour notre dernière émission cinéphilique de la saison. Une saison que je clorai en compagnie de Jean-Baptiste Toré.
Bonsoir François.
Comment va-t-il?
Bah, il va très très bien.
Et d'où revient-il?
D'où revient-il? Là il revient de la chaleur, de pas très loin, et il revient plutôt des États-Unis et oui. Précisément des Appalaches.
Voilà. Très bien, on n'en dit pas plus.
Non, mais pour l'amateur de mauvais genre, les Appalaches, c'est un territoire de quand même de fantasmes, c'est des tours mortels, c'est délivrance, c'est la sodomie de Ned Beatty, oui. Dans un endroit que j'ai retrouvé vraiment au buisson près, au nord de la Géorgie.
Un monument immortalistel, c'est une inouïe.
Mais les Appalaches, ça reste un endroit indépendamment de la country music, parce que la country music est liée, est née dans les Appalaches, c'est quand même un territoire de fantasmes où on pense qu'il y a exclusivement, grosso modo, des inbred family, des rednecks, des hillbillies, édentés, des violeurs, des moonshiners. Il n'y a pas que ça, il y en a aussi hein, quand même, oui. Mais il n'y a pas que ça.
Très bien, bah vous pouvez réécouter les émissions qu'on a faites avec Ron Rash ou avec Chris Offutt pour avoir ce parfum d'Appalaches. En attendant de voir le film de Jean-Baptiste, le prochain Neon People sort
le 22 octobre.
Le 22 octobre, ouais. Notez bien cette date.
On en reparlera peut-être.
On en reparlera, je pense. Bah tiens, bonsoir Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Alors donnez-nous une bonne nouvelle.
Eh ben le cercle sur Canal+,
ouais.
Continuer à la rentrée, voilà, ah bon, sur un rythme un peu différent, mais l'émission, en tout cas, est bien là à la rentrée, et ce sera un plaisir de se retrouver autour de la table pour échanger avec les camarades et partager avec le public des décryptages, des analyses, des films de l'actualité et du patrimoine.
Bon, vous avez senti le vent du boulet, mais vous êtes là à la rentrée.
On est là.
C'est très bien. Fausto Fazulo, vous serez toujours là à la rentrée.
Je crois bien. Écoutez, s'il m'arrive rien d'ici cet été...
Mad Movies, Atome, numéro à venir, quelques précisions.
Gros numéro d'été à venir, avec une actualité cinéma de genre très très chargée, avec pas mal de bons films, dont aussi... certains films qui étaient présents à Cannes et qui vont sortir sur les écrans cet été, que Philippe a déjà vu au festival et qu'on va traiter plus ou moins largement, en fait, dans le numéro de juillet-août à venir.
Parfait. Stéphane Duménildo, oui, bonsoir, chez Façonnage, on rappelle.
Bien sûr. Soleil Rouge, une histoire du cinéma rebelle japonais. Donc, ce petit ouvrage est sorti la semaine dernière.
Dont vous êtes l'auteur, qu'il faut lire.
Ben, j'espère, oui.
On en parlera dans cette émission, mais plus tard, parce qu'effectivement, les choses sont lentes un peu dans cette pauvre hebdomadaire qui revêt. Un jour, on sera quotidien ou on fera deux heures. Vous verrez, les choses retrouveront une autre forme. Donc, très bien, aux éditions Façonnage, disponibles en librairie.
Tout à fait.
Pas de problème. Eh bien, ce soir, je suis avec Laurent Polleret, que je salue, et Jean-Guy Lamèche, que je salue également. Et j'ai demandé, bien évidemment, à Laurent Polleret de trouver les moyens qu'il a trouvé d'évoquer la paranoïa sonore.
C'est une belle occasion.
tuerais s'il en avait l'occasion.
Voilà, un savant mélange battu à la cuillère par Laurent Paul Ray de Clout d'Alji Pakula et de Conversation de Francis Ford de Coppola. Deux grands moments de la paranoïa.
Oui, alors Clout, parce qu'on en parlait un tout petit peu en antenne, on se disait qu'il y a vraiment, on y reviendra quand on parle de Parallax, il y a un compositeur, il y en a plusieurs bien évidemment, mais il y a un compositeur qui a imprimé pour toujours ce que c'est que, là, on pourrait dire, le son de la paranoïa au cinéma, c'est Michael Small. Michael Small, c'est l'homme qui a fait la bande-annonce de la bande originale de Clout, de Parallax View, de Rollover, mais de Marathon Man, hein, de Schlesinger et de beaucoup d'autres films. Et là, en fait, Laurent a mélangé Michael Small, mais pareil, quand son secrète, et même des hommes du président, c'est David Shyer. Hein. C'est encore un autre cinéaste qui a créé, on pourrait dire, de la paranoïa plus mélancolique, plus humanisée. Alors que Michael Small, on est dans l'inquiétude pure et dure. Et j'aime bien le petit mélange qu'a fait Laurent, c'est qu'on sent qu'il a compris un truc de la paranoïa. C'est pas qu'un type doué pour faire de la prog. C'est qu'il a compris un truc, à savoir que c'est un mélange toujours entre d'un côté une espèce de force qui avance en sourdine. C'est ça la bande-son de la paranoïa. Et puis des notes un peu dissonantes, bizarres, hein, qui viennent s'insérer à l'intérieur de cette espèce de machine, alors qui est le destin, une organisation invisible, quelque chose qui avance, quoi qu'il se passe. Et c'est vraiment un des secrets des BO de Michael Small et de ce qu'on pourrait presque appeler le côté paranoïaque, d'une certaine manière.
Voilà, alors l'actualité des parutions vidéo a fait que, ma foi, ce sujet du cinéma paranoïaque américain était là devant nous, puisque sont parus successivement Seconds, donc de Frankenheimer, et à cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula. On va suivre la chronologie et commencer par ce monument qu'est Seconds, monsieur Rouillet.
Ouais, c'est vraiment une très bonne idée parce que, on l'a attendu longtemps, le Blu-ray du film, parce que déjà, on a attendu longtemps de pouvoir revoir le film, hein, il a été restauré, on l'a revu, il a été repris en salle en 2014. C'était un film, moi je l'avais pas vu. Enfin, on pouvait avoir que des copies et en 2014, ça a été vraiment une découverte. Et puis depuis 2014, il a fallu 11 ans avant d'avoir un Blu-ray digne de ce nom en France de ce film. Et donc c'est assez formidable. C'est Sidonis Kalista qui s'en est occupé, donc avec un digibook. Dans les bonus, on retrouve notre ami Jean-Baptiste, il y a un livret d'Olivier Pierre, il y a un petit bout d'entretien d'époque de Rock Hudson et de John Frankenheimer. Bon, et puis alors voilà, il y a le film, c'est quoi? C'est Cunts, c'est l'idée d'une seconde chance, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est un cas de sup américain et qui a un coup de fil d'un ami à lui, mais qui est mort depuis plusieurs années, donc voilà, et qui va se retrouver on va lui proposer d'avoir une nouvelle vie. Et l'idée, c'est de changer d'acteur. Alors, on a déjà vu ça au cinéma, hein, Les Passagers de la Nuit, d'Elmer Devs et tout ça. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le cadre est joué par John Randolph, qui était déjà un acteur qui était mis sur la liste noire. Et c'est un de ses premiers retours au cinéma. Et puis après, c'est Rock Hudson, qui est à l'époque une star. Enfin, il a fait les grands films des années 50, Les Cirques et tout ça. Mais qui a une double vie. C'est-à-dire que lui, l'enfermement dans son corps, il connaît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être gay à Hollywood en 1966. Son agent, tout le personnel autour de lui, invente une autre histoire. Donc, voir ce personnage-là, c'est assez fascinant. Le film, après, c'est un film de Frankenheimer qui répond. C'est presque une réponse à Manchurian Candidate.
Alors, film de Frankenheimer, voilà, là, directement.
Un candidat.
La conspiration politique.
Et voilà, Manchurian Candidate, où il s'agissait de lavage de cerveau. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas laver le cerveau. Le type va garder son cerveau, mais il change de corps. Et il devient ce corps désirable qui est celui de Rock Hudson. Et ce que raconte le film, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas la seconde chance. Ça n'existe pas le rêve américain. J'ai retrouvé un entretien de Frankenheimer avec Michel Simon et Bertrand Tavernier dans Positif de 70, où il disait, voilà, je voulais dire que le rêve américain, ça n'existe pas, et ça sert à rien de changer de vie dans une société qui ne change pas. Et le film va raconter cet échec. Alors, ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est que aujourd'hui, quand on voit le film, les choix de mise en scène, moi, me semblent tous très pertinents. Notamment l'ouverture du film avec le générique de Saul Bass, le choix de la courte focale 9,5 pour montrer une réalité déformée et créer une espèce d'étrangeté. On est dans une gare et tout ça. Alors qu'à l'époque, et l'entretien avec Simon et Tavernier disent à Frankenheimer, dites donc, votre chef-op, là, James Wongo, il est gonflé d'avoir utilisé la courte focale. Bon, James Wongo, qui a des plus grands chef-op de l'histoire du cinéma, qui était déjà à éclairer des films en 1923 et qui terminera sa carrière quasiment avec Les Cavaliers de Frankenheimer en 70. Mais et Frankenheimer lui dit, bah, James Wongo, il est génial, mais la courte focale, c'est moi. Si vous trouvez ça pas bien, c'est mon choix. C'est pas mon chef-op qui décide où on met la caméra et quel est le choix de la focale. Là, vous parlez de la mise en scène du film. Et c'est ça qui est très intéressant, de voir comment on a un sujet avec un type qui est cadre dans une banque et qui a une belle maison en banlieue et avec une femme aimante et tout ça.
Conforme à tout,
voilà, le modèle américain. Et que la mise en scène va créer cette étrangeté. Et après ça, au contraire, la mise en scène va vouloir créer une espèce de normalité quand il a cette autre vie qui est peintre à Malibu Beach, etc. Et
le moment orgiaque.
Et où l'enfermement. Alors la scène orgiaque, là encore, sur le Blu-ray, on vous dit montage intégral et tout ça. Alors vous dites, bah oui, mais il faut savoir que le film est sorti en France coupé. Cette fameuse scène orgiaque était interdite par les...
Alors, allez, pour nos auditeurs, la scène orgiaque, c'est qu'à un moment, sous sa nouvelle apparence, le héros est convié à participer à une espèce de scène bachique, de vendange avec...
tout le monde se met nu dans le tonneau de vin.
Voilà, ça, on fout nu le raisin et ça devient
bacchanal. Et c'est vrai qu'on est en 66, c'est vraiment le moment où le
Pré-Woodstockien
est vraiment abandonné. Mais quand même, toutes ces nudités, toutes ces pudosités, il y a énormément de nudité frontale dans la séquence, ça a trop choqué, et du coup la scène a été mutilée. À l'époque, on n'a pas très bien compris ce qu'il voulait dire avec cette séquence-là, parce que c'est une scène qui va lui permettre au personnage de comprendre pourquoi il n'est pas bien. C'est la scène de la prise de conscience, pourquoi il n'est pas en phase avec ça. En même temps, c'est là où on voit l'incroyable modernité du film et comment on peut le rattacher. C'est presque un film charnière entre Hollywood classique et le nouvel Hollywood, où on va avoir des préoccupations, où on voit les hippies, où on voit ce genre de choses.
Bold. Bizarre. Terrifying. Rock Hudson. In an astonishing change of pace, stars in seconds. Rock Hudson as a second, freed from all responsibilities, now ready to taste new pleasures. Rock Hudson. As a man who buys for himself a totally new life, a chance to begin again. Every man's dream since time began.
As soon as these people leave, I'm going to attack you. I want you to know that.
I'm counting on it.
Rock Hudson, as a man who lives the nightmare of being a second.
Voilà, l'homme qui vécut deux fois. Jean-Baptiste.
Bon, alors, Seconds. Seconds, c'est un des plus grands films américains des années 60. À mon avis, par le plus grand cinéaste américain des années 60, qui est John Frankenheimer. Il y en a qui sont passionnants, mais c'est quelqu'un qui... Il faut rappeler Frankenheimer, il est né en 1930, il vient de la côte Est, il a fait une immense carrière, d'abord à la télévision, sous la férule de Sidney Lumet, aux côtés d'Arthur Penn. Il faisait des live dramas, c'était des films qui étaient réalisés
en live.
À l'époque
où la télé était réalisée par Frankenheimer, Sidney Lumet et Arthur Penn.
Avec des acteurs, avec des acteurs, on croisait Rod Steiger, Lee Marvin, Charlton Heston, etc.
Non, télé.
Voilà, c'était une autre époque, évidemment. Il a été un des Wonder Boy, un des génies de la télévision américaine, Frankenheimer. Et il a quasiment inventé les nouvelles règles du live drama, qui était en gros filmé à l'aide de plusieurs caméras en temps réel, parce que c'est une diffusion en temps réel. Pas complètement. Il y avait 9 secondes d'écart entre le moment où on filmait et le moment où c'était diffusé à la télévision. Il a été le grand cinéaste de ça en inventant le live drama. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, on ne peut pas comprendre Frankenheimer si on oublie que cette carrière, il a réalisé 150 live drama dramatique télé pour la télévision américaine. Donc c'est une œuvre colossale chez Frankenheimer. Lui-même a toujours dit que si la live drama ne s'était pas arrêtée à cause de l'arrivée de la vidéo à la télé, il aurait continué à faire de la télé. Il était extrêmement heureux. Le cinéma l'ennuyait. Trop lent, trop d'attente, une seule caméra, pas d'adrénaline, pas d'énergie. Donc il est allé presque contraint vers le cinéma, même s'il deviendra un des plus grands cinéastes. Et je rappelle que Francis Ford Coppola, qui a écrit en 2017 un livre qui s'appelle Live Cinema, un titre sexnique, l'homme qui a fait coup de cœur, etc., le dédie à John Frankenheimer, qu'il appelle le pionnier. Donc John Frankenheimer, c'est colossal dans l'histoire du cinéma américain. C'est quelqu'un qui va réaliser dans les années 60 ce qu'on appelle la fameuse trilogie de la paranoïa, que conclut, en fait, d'une certaine manière, Seconde, puisqu'il y a eu évidemment Manchurian Candidate, il y a eu ensuite 7 jours en mai, et il y a eu Seconde, et d'ailleurs, 7 jours en mai, où il collabore avec Kirk Douglas, pendant longtemps, c'est Kirk Douglas qui doit jouer le rôle de Rock Hudson. Mais il n'arrive pas à trouver, à s'accorder en termes de planning, et finalement, c'est Rock Hudson, ce qui est une idée de génie, parce qu'il faut rappeler quand même que le film n'a pas marché. C'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre, Seconde, étonnant, moderne, qui en plus qui rend compte de ce moment de l'Amérique extrêmement inquiet, parce qu'il n'est pas le seul, il y a une galaxie de films comme ça, où on sent que la cocotte minute va exploser. Elle n'explose pas, mais elle va exploser. Pense, je ne sais pas, à des films comme Brainstorm, Mr. Bedwick de Belmer, d'Elmerman. Il y en a, c'est le cinéma malade. Il y avait une rétro à la Cinémathèque qui s'appelle Hollywood Breakdown. C'est la crise de nerfs des années 60, avant le nouvel Hollywood. Et ce qui est absolument passionnant, c'est de se rendre compte que Rock Hudson va accepter de faire le rôle, pour des raisons notamment que dit Philippe. Il y a une raison autobiographique secrète. Rock Hudson, il sait ce que c'est, vivre dans le corps d'un autre, etc. etc. Et on a beaucoup imputé, et notamment John Frankenheimer quand le film sort, l'échec, finalement, à la présence de Rock Hudson, à savoir... Le film est sifflé à Cannes, vraiment.
Bravo.
Et ça va être un coup de semonce terrible dans la carrière de Frankenheimer. Et d'ailleurs, plus jamais Frankenheimer, on est en 66, ne retrouvera le statut, la liberté et la puissance qu'il a eu au début des années 60. Et il partira faire des films qui s'appellent Walk the Line, etc. Et quand il va revenir à Hollywood, dans le milieu hollywoodien, tourner des gros films avec des gros stars, on est en 74, il a quitté fondamentalement Hollywood en 70. Le problème, c'est qu'entre-temps, pendant 4 ans, il y a des cinéastes qui sont arrivés, qui s'appellent Friedkin, qui s'appellent Coppola, et il a manqué le train. Et on pourrait dire le truc le plus symbolique de ça, c'est que quand Frankenheimer, le génie des années 60, revient en 74, qu'est-ce qu'on lui donne à faire ? French Connection 2. Autrement dit, il vient après le petit jeuneau qui s'appelle William Friedkin. Et donc l'échec de Seconde imputé à Rock Hudson, Frankenheimer disait, mais en fait, le film n'a pas marché parce que personne ne peut croire que John Randolph, travaillé, ils l'ont grandi, ils l'ont tenté de l'arranger, peut un jour, ou au prix d'une opération diabolique, titre français du film, peut se transformer en Rock Hudson. Mais le coup de génie du film, pour moi, c'est exactement ça. C'est parce que c'est incroyable, c'est absolument invraisemblable, et je dirais que le choix de Rock Hudson, l'impossibilité, il avait raison, Frankenheimer, de dire, mais John Randolph peut pas devenir Rock Hudson, hein. Mais c'est précisément parce que il y a une sorte d'invraisemblance, si on veut, du changement d'acteur, que le film contient déjà sa critique de ce que c'est que le rêve américain, l'idée de la seconde chance, cette fameuse seconde chance. Le choix de Rock Hudson est déjà un choix génial, même si ça vouait évidemment le film aux gémonies.
Fausto ?
J'avais justement une question pour Jean-Baptiste, parce qu'effectivement, John Frankenheimer, c'est l'un des plus grands cinéastes américains des années 60, mais je me suis toujours posé la question, en fait, de pourquoi j'ai toujours eu la sensation que c'était un peu un cinéaste pour cinéaste. C'est-à-dire que quand on voit Seconds, évidemment, et qu'on regarde un petit peu le cinéma américain quasi contemporain, on voit qu'effectivement, David Fincher s'en est inspiré, que Darren Aronofsky a repris des procédés de mise en scène utilisés dans Seconds 50 ans plus tôt. Mais d'un point de vue critique, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps avant de s'installer, justement, comme étant un objet d'étude et d'analyse. Et je me suis toujours posé la question, comment, avec une filmographie aussi dense, hétéroclite et brillante, pourquoi, en fait, il a tardé à avoir cette reconnaissance critique-là?
Tu as raison. D'abord, le problème, si tu veux, c'est que je pense que Frankenheimer, au moment où la critique commence un peu à se réveiller, il commence à faire des films qui sont moins bons. Parce que Les Cavaliers est un film passionnant, mais qui est un film raté. Toute la filmographie de Frankenheimer, jusqu'à son retour à la télévision. Finalement, il retrouvera la liberté et le talent dans les années 90, quand il reviendra faire des téléfilms de 3 heures, absolument vertigineux. Hein. Je conseille aux gens qui s'intéressent à Frankenheimer d'aller voir ces films-là. Et je pense que la dimension hétéroclite dont tu parles, elle est compliquée parce que la thématique secrète de Frankenheimer, c'est un technicien absolument brillant. Dans Tavernier et Courson, dans leur 50 ans cinéma américain, écrivait, il a l'art des introductions qui vous clouent en fait au mur. Il a une façon stupéfiante d'ouvrir ses films. Il y a quelque
filature
chose.
Dans la gare.
Voilà, c'est comme si en fait toutes ces ouvertures c'était du niveau de Naked Kiss de Samuel Fuller. Quand on prend une claque dans la gueule, il y a plus la perruque tombe, c'est ça Frankenheimer. Mais je pense qu'à mon avis, d'une certaine manière, comme sa carrière a un peu dégénéré dans les années 70, c'est devenu un second couteau. Il avait envie de tourner, il avait vraiment besoin de tourner, donc il a accepté aussi des commandes. Certaines sont pas très glorieuses, The Challenge par exemple au début des années 80.
Ouais, il y a pas plein, très bon, ça, ouais, effectivement,
honnêtement, qui sont pas très bons. Donc on a un peu oublié ça. Et surtout la thématique secrète. Moi je pense que Frankenheimer, d'abord c'est l'inventeur de la paranoïa au cinéma. On parlera tout à l'heure de Pakula, mais le premier qui a fait une vraie trilogie, c'est John Frankenheimer. Et c'est celui qui a le mieux capté ce que c'est que la question de l'aliénation à partir des années 60. Il est complètement, on pourrait dire, dans l'air du temps. C'est lui, c'est pas un autre. Hein. C'est pas d'autre. Au niveau de Hollywood, de certaine manière, ils vont presque venir après. Le boulot conceptuel, intellectuel, il est fait par Frankenheimer. Il dit, là, il y a un problème de l'aliénation. Et là, il est complètement en phase avec ce que c'est que l'Amérique. Et en fait, cette idée, elle va un peu disparaître au fil des décennies. Et puis, Frankenheimer, effectivement, les cinéastes qui ont commencé à la... En fait, on n'a pas vu l'importance aussi qu'avait la télévision, en fait, pour Frankenheimer, jusqu'à Black Sunday.
Vous ne voyez pas là, en France.
Bien sûr.
Les critiques français ne voyaient pas la télévision américaine de cette époque-là.
Mais Philippe, même encore aujourd'hui, quand tu veux travailler sur Frankenheimer, il a fait 150 dramas pour la série qui s'appelle Playhouse. Tu en trouves 3-4, dont une que je conseille, qui date de 57, qui s'appelle The Comedian, avec Mickey Rooney, qui est peut-être le meilleur rôle qu'a jamais tourné Mickey Rooney. Mais sur les 150, pour faire un travail un peu conscient sur Frankenheimer, il faudrait pouvoir avoir accès à quelques-unes. Et c'est très compliqué. Et la télévision, on la retrouve même dans Black Sunday. Et Frankenheimer arrive dans Black Sunday, qui a aussi édité Sidonis, avec cette espèce de gigantesque attentat via un ballon dirigeable. Ouais. Là, il y a une grande séquence, il y a toujours des régies télé dans les films de Frankenheimer. Dans tous ses films, il y a des régies télé. Et lui-même, à la fin de Black Sunday, arrive dans la régie télé. Et c'est lui qui donne le coup d'envoi, finalement, de l'acte terroriste final.
Stéphane, pour terminer.
Oui, moi j'étais vraiment très très marqué, assez bouleversé par l'interprétation de Rock Hudson, qui a ce trait, une sorte qui est lessivé complètement, hein, même lorsqu'il devient Rock Hudson, hein, surtout. Et ce trait, une sorte de mélancolie, et lorsqu'il va plonger dans le bain, dans la bacchanale, je pense qu'on a rarement vu un acteur se mettre dans un tel état d'exaltation. En fait, et là, en effet, ce que disait Philippe, on sent bien qu'il y a quelque chose de très profond chez lui lorsqu'il se retrouve voilà, submergé par ses corps, où c'est presque un de ses rêves.
Et d'ailleurs, Stéphane, il avait tenu pour la fameuse séquence où il va commencer à boire, où il invite ses voisins, où d'un seul coup son identité dégénère, et on apprend ce que c'est que les secondes, il avait tenu à être quasiment sous. Hein, pour pouvoir faire surgir quelque chose qui n'était pas évidemment dans le récit, dans le scénario, mais qui venait des plus profonds de sa biographie à lui. Et c'est intéressant quand on voit jouer Rock Hudson bourré dans cette séquence. Et ben, c'est une certaine manière, c'est sans les mots, c'est le coming out de Rock Hudson sur sa propre homosexualité.
Et ça, c'est étrange aussi cette façon qu'il a de saisir le basculement de la Californie dans la contre-culture, en fait.
Incroyable.
Seconds de John Frankenheimer, c'est chez Sidonis. On passe maintenant à cause d'un assassinat d'Alan G. Pakula.
Yes, Lee, how are you?
Senator Carroll, just fine, thank you. Welcome to our city. Since the assassination, six of these people have died in some kind of an accident.
There is no evidence of a conspiracy.
These people were killed, and whoever killed them is going to try to kill me. Austin thinks that maybe we all saw something up there.
We're in the business of reporting the news, not creating it.
You've been asking questions about me and things you know nothing about.
What I know is I need a good alias and I need a good ID.
Who are you?
You know, there for a moment, I thought you were a man.
Voilà, le débat continue sur la paranoïa au cinéma américain. Jean-Baptiste Torré, Parallax View, à cause d'un assassinat qui sort dans une fort belle édition, dans cette collection Ultra Collector chez Carlotta, donc avec un livre dont vous êtes l'auteur, très, très richement illustré, et puis une belle édition Blu-ray.
Bon, alors, en fait, on n'a que des gros morceaux ce soir.
Ah bah, ce soir...
C'est un strike en bowling,
c'est terrible. Là, vraiment, c'est le bouquet final de François. Parallax View, j'imagine, ou j'ose espérer que les auditeurs connaissent ce film par cœur, qu'ils ont presque été élevés avec la musique de Michael Small.
En tout cas, ils peuvent le connaître.
Ils peuvent le connaître. Voilà. En fait, c'est un film dont on avait jusque-là qu'une copie assez médiocre, faut dire quand même ce qui est. Criterion avait sorti une très belle édition de Parallax, et là, maintenant, effectivement, Carlotta. Alors, on pourrait dire que Parallax est au film de la paranoïa, de la conspiration, ce qu'un film comme Seconde a été dans les années 60, le film de Frankenheimer. C'est pour moi le sommet absolu, et Dieu sait que c'est un genre, le film de complot, paranoïaque, thriller, qui entre grosso modo 72 et 76-77 comporte un nombre de films et de chefs-d'œuvre incalculables. Croissance secrète, Marathon Man, Les Trois Jours du Condor. La liste est
un peu différente.
Oui, mais quand même, ça reste quand même un film. D'ailleurs, Marathon Man, quand John Schlesinger fait Marathon Man, il a tellement aimé 2 ans auparavant par Alex View qu'il demande à Michael Small de lui faire la même musique. Et bien, Casso me dit, mais je ne peux pas faire la même musique. Il dit, fais la musique la plus proche de La Cause à l'assassinat pour Marathon Man. Et quand vous écoutez Marathon Man, dès le début, on a la signature musicale, évidemment, de Michael Small, lorsque Dusty Hoffman court autour du réservoir. Ouais. Voilà, bon, séquence mythique. Pour ceux qui sont allés à New York, première chose que j'ai fait quand je suis allé à New York, moi, j'ai pris une serviette, je ne sais pas courir, mais je suis allé autour du réservoir.
La gonzo cinéphilie, quoi.
À cause de l'assassinat. Donc, en deux mots, le pitch, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a entendu dans la bande-annonce, donc l'action du film débute à Seattle, sur la Space Needle, une espèce de gigantesque structure un peu comme ça en épingle, avec une plateforme sur laquelle va avoir lieu une sorte de fête. C'est une campagne pour un sénateur, le fameux sénateur Carroll, sorte d'épigone de Kennedy. Il est parfait, le gendre idéal, il a une femme qui m'aime un tailleur rose comme Jackie Kennedy en 63. En 74, tout le monde comprend que sénateur Carroll, c'est Kennedy. Or, ce type-là, au moment où il fait un petit discours au sommet de cette structure métallique froide, comme ça, il est assassiné. Là, il y a une série de journalistes qui sont là. Par un garçon
du restaurant.
Voilà, qui, entre parenthèses, est l'homme qui sodomise d'être bêtis dans des livres. J'y reviens et on y revient toujours. C'est le même acteur, ce qui est quand même intéressant 3 ans auparavant. Et donc, le temps passe et puis on se rend compte que certains des témoins de cet assassinat, la commission d'enquête a conclu évidemment à l'assassinat, alors vous savez, d'un tireur unique, hein. C'est le Lee Oswald de service, si on veut, avec cette espèce de commission d'enquête qu'on voit et qui va lancer d'une certaine manière le générique du film. Le temps passe et on se rend compte que des témoins de cet assassinat disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Alors l'un a un accident de pêche, un autre a une crise cardiaque, un autre, bon. Et il commence à avoir une journaliste jouée par Paula Prentice, hein, sport favori de l'homme de Wardo, que c'était elle, et puis les femmes de Stepford. Paula Prentice qui va voir un de ses collègues joué par Warren Beatty en disant, c'est quand même, c'est bizarre, je crains, j'ai l'impression. Nous aussi, on était là, on va y passer. Warren Beatty ne prend pas ça au sérieux. Plan suivant, cette femme est dans la morgue, à la morgue. Il y a un travail sur le montage stupéfiant dans le film de Pacula. Et évidemment, Warren Beatty va commencer, il s'appelle Joe Freddy, à mener son enquête et il va découvrir l'existence dans un tout petit bled complètement caricatural de l'Americana, dans le chalet rustique d'un shérif. Il va découvrir l'existence d'une structure qui s'appelle la Parallax Corporation, dont on pense que c'est une structure qui n'a pas de couleur politique. Elle répond, on pourrait dire, à toutes les offres. Elle peut travailler pour les démocrates, les républicains. Elle n'a pas de couleur politique. C'est le nouvel âge, on pourrait dire, politique des années 70. Hein. Il y a que le porte-monnaie. C'est le fameux discours de Ned Beatty dans Network, si on veut, de Sidney Lumet. Et donc, cette Parallax embauche des assassins en fonction des demandes. Et ces demandes peuvent provenir de toutes les branches de l'industrie. Et Warren Beatty va décider de passer le test pour comme une sorte d'insider pour se faire passer pour un assassin. J'en dirai pas plus puisque là je suis allé jusqu'à la séquence du test qui est une des plus grandes séquences de l'histoire du cinéma américain et qu'il faut voir et qui évidemment est une espèce de relecture, déformation du film d'Abraham Zapruder, l'homme qui avait filmé l'assassin Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. À partir de là, Pacula fait le film de conspiration ultime. Ça veut dire quoi? C'est pas tant le scénario qu'il y a eu plein de problèmes. Warren Beatty était pas à l'heure. Ils sont partis sur le tournage avec un scénario lacunaire, il manquait plein de choses, il y a eu beaucoup d'improvisation, mais c'est la forme que va donner Pakula, dont personne ne s'est jamais remis, qui a été repompée à n'en plus finir. Le style pakulien, c'est à peu près tous les plans de Parallax View. Il a inventé ce que c'est que la conspiration et la paranoïa au cinéma, esthétiquement, je veux dire, comme Small l'a inventé au niveau de la musique, et il l'a inventé du point de vue du cadrage, la miniaturisation, l'écrasement des perspectives, l'écrasement des personnages, le devenir silhouette de Warren Beatty, l'homme dont on voit même pas le regard, etc. Il a fait ce travail avec non pas le prince de la paranoïa, comme ça qu'on appelait Michael Small, mais avec le prince des ténèbres, qui est Gordon Willis, on pourrait dire des maîtres d'œuvre de l'image paranoïa créée par Pakula. Gordon Willis, c'est l'homme qui a évidemment éclairé Le Parrain. On voit la séquence d'ouverture du Parrain, on a compris ce que c'est le style de Gordon Willis. Il est aussi connu parce qu'il a fait 8 films avec Woody Allen. Mais Gordon Willis, le prince des ténèbres, surnommé comme ça par le chef-op Conrad Hall, en fait, va, avec Pakula, créer esthétiquement quelque chose dont on n'est à peu près jamais sorti. Et on pourrait dire, pour terminer et faire très très vite, c'est que l'idée géniale de Gordon Willis, c'est qu'il y a deux choses. Un, la sous-exposition. C'est-à-dire qu'en fait, tout est sous-exposé en permanence. Imaginez Warren Beatty qui n'était pas du tout content, parce qu'il y a plein de séquences où on ne voit pas son regard. Or, pourquoi ne pas montrer le regard? Ça permet justement d'avoir un doute sur ce que pensent les individus. Parce que c'est un film sur la duplicité, l'illusion, les faux-semblants. Et même quand on regarde les gens droit dans les yeux, comme on ne voit pas les yeux, on ne sait pas de quel bois tous ces gens se chauffent. C'est un film, évidemment, sur la grande paranoïa des années 70. C'est le moment post-Vietnam, papier, évidemment, les papiers Ellensberg, c'est le Watergate, etc. etc. Ouais. Et donc, en fait, il va à la fois donc, travailler l'obscurité, souvenez-vous de la séquence du Parrain, hein, et avec cette idée que l'obscurité est d'autant plus géniale qu'on alterne avec de grandes séquences solaires.
Le vrai pouvoir est dans l'ombre.
Le vrai pouvoir est dans l'ombre. Et d'ailleurs, l'éclairage fait que la commission d'enquête, lorsqu'elle livre la première fois ses conclusions, la simple façon dont Gordon Willis l'éclaire et le cadrage de Pakula nous explique tout de suite qu'il y a une conspiration, hein, ça se voit. Et donc, dernière chose, Gordon Willis voulait travailler aussi ce qu'il appelait les espaces négatifs, ce qu'on n'a quasiment plus au cinéma aujourd'hui, à savoir l'essentiel du plan, il est vide. Voilà. C'est-à-dire que le personnage, il est coincé dans un coin, il est décadré, etc. Mais l'essentiel de ce qu'il y a à voir, c'est béant. Et donc, moi, j'ai toujours pensé, quand je regarde les films de Pakula, et singulièrement Parallax View, j'ai toujours pensé, évidemment, au film d'Antonioni. Et je pense qu'il y a un lien entre le travail que faisait Gianni De Vannonzo, qui était le chef-op des films d'Antonioni, avec, évidemment, Gordon Willis pour Pakula. Bon, chef-d'œuvre absolu sur lequel on pourrait tous parler, évidemment, des heures.
Des heures. Philippe Rouillet, pas des heures.
Cette idée de la disparition et cette idée de l'espace, on va pas raconter, mais la fin, la convention, c'est la plus grande démonstration de ce que vient de dire Jean-Baptiste César, que on est submergé par le néant. Qui est filmé par le vide, et on sait que le drame est à l'intérieur de ce vide. Voilà. Le film, c'est Warren Beatty qu'on va suivre de bout en bout. Il est là dès la première séquence. Il n'arrive pas, c'est formidable, la première séquence, il n'arrive pas à passer. Et c'est complètement prémonitoire. C'est-à-dire qu'on lui refuse l'accès. Et il passera son film à se voir, à passer les frontières alors qu'on lui refuse l'accès. Et c'est le lien entre le film de paranoïa, le thriller. C'est un film qu'on connaît, qu'on revoit, et à chaque fois qu'on le revoit, on s'attache à des scènes différentes. Et c'est vrai que Jean-Baptiste parlait de cette séquence test, c'est vrai que c'est une leçon d'histoire du cinéma, mais il y a même l'effet Kouletchov qui est dedans. Il y a tout, quoi. C'est à la fois une leçon
de montage. Vous direz un jour ce que c'est que l'effet Kouletchov.
Qu'est-ce qu'on représente et l'utilisation du montage.
Moi, je me demande s'il n'en va pas du film de conspiration comme il en va du film de zombie. C'est-à-dire qu'avec les films dont on parle ce soir, on passe d'un âge théologique à un âge politique. Le film de zombie a commencé par là. Il y avait le maître des zombies. Dans White Zombie des frères Halperin, il y avait Bela Lugosi en maître de la sucrerie qui régnait sur un peuple de zombies. Pareil que le docteur Mabuse, le maître de Métropolis. Il y a quelqu'un qui est le dieu de tout ça. Il y a une tête. Et brusquement, avec tout ce cinéma-là, après, arrive quand La Nuit des Morts-Vivants arrive, il n'y a plus de tête aux zombies, il y a du zombie.
Mais ce que vous dites, François, vous avez raison, mais en fait... C'est
pareil
fait,
pour la paranoïa.
Tout commence en 63. Voilà. En fait, c'est un film post-Kennedy, il y en aura beaucoup d'autres, etc. Et ce qui caractérise l'affaire Kennedy, la façon dont les images et le cinéma vont ensuite les retranscrire, c'est qu'on est passé d'un monde pyramidal, donc avec cette tête dont vous...
Voilà,
plus on monte les échelons, Lee Marvin dans
Point Blank. Mais ça, c'est le syndrome du jeu de la montagne.
Un monde réticulaire. C'est-à-dire que ce qui est génial dans Parallax View, c'est que le plus haut placé dans cette structure qu'on verra, c'est un petit homme de main, joué par un acteur qui s'appelle Walter McGinn, qui avait rien fait auparavant, qui dans le récit, dans la première version du scénario, était un type ultra baraqué, massif, etc., et qui est un homme qui ressemble à une souris toute chétive. Voilà le niveau d'accès au visage du pouvoir qu'on a. Voilà, et c'est ça la paranoïa.
Absolument, hein, parce que le pouvoir n'a plus de visage. Il n'y a plus de vieux de la montagne, il n'y a plus de grand inquisiteur, il n'y a plus de maître de la charbonnerie. Où y a
mais je voulais juste dire une chose, François, parce que Philippe...
Bizarrerie,
Philippe citait la séquence du test dans Parallax. Pour moi, il y a deux séquences quand même incroyables dans les années 70, quasiment coup sur coup, d'un homme devant des images. C'est évidemment Warren Beatty dans la séquence du test, et c'est Edgar G. Robinson dans la séquence du reposoir dans Soleil Vert de Fleischer. Je pense que c'est deux moments très emblématiques de ce qu'a été cette période-là.
Posto.
Aujourd'hui, c'est assez intéressant avec Seconds et Parallax View, c'est d'avoir deux films sur la paranoïa, mais dont les procédés de mise en scène sont quand même très très différents. C'est-à-dire qu'il y a une dimension absolument mentale dans Seconds, avec notamment l'utilisation des courtes focales qui permet de déformer les perspectives et donc d'imaginer cette espèce d'état de transe et d'incertitude du personnage. Personnage qui est toujours présent justement dans le plan, avec une rigueur du point de vue où on ne quitte absolument pas le personnage incarné par Rock Hudson. Ce qui est intéressant dans Parallax View, c'est ce que tu disais Jean-Baptiste, c'est la manière en fait dont Pakula fait disparaître progressivement.
Se dissout.
C'est ça, c'est la dissolution du personnage. Personnage qui est par ailleurs très très complexe. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est un petit peu gris, assez antipathique. Effectivement, le tour de force, c'est d'avoir Warren Beatty au sommet de sa beauté. Voilà, on le voit au début débarquer avec son espèce de blouson de vétéran, Marines, tout ça, etc. Charisme absolument ravageur. Et en faire, en fait, une sorte de petite chose qui finit par disparaître, qui finit par se perdre dans un plan, avec effectivement ce final absolument dingue. Tu parlais d'Antonioni Jean-Baptiste. Évidemment, par ricochet, on est obligé aussi de penser à Michael Mann.
La dissolution des identités, Stéphane.
Oui, je me suis demandé d'ailleurs s'il n'avait pas parfaitement réussi le test, en fait, Warren Beatty, hein, s'il n'avait pas été reconditionné pendant le test d'image et si son destin, justement parce qu'il n'a pas pu assister à la scène de l'assassinat, était justement d'incorporer les images qu'il n'avait pas vues pour se trouver, on ne va pas dévoiler hein, le film, là où il devait exactement se trouver.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est mon hypothèse, c'est que il passe le test, mais il le passe tellement bien qu'il se fait Oswaldiser. En fait, il vient occuper la place que la parallaxe lui avait prévue dès le début. Et le scénario est retort et génial.
C'est là que ça devient vertigineux, en fait.
C'est complètement vertigineux, évidemment.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà, bouquet final cinéphilique dans Mauvais Genre ce soir, après deux classiques du cinéma paranoïaque américain, deux autres films, alors bien différents. On commence avec vous, Fausto Fazzullo, La Résidence, un Betaram movie.
Oui.
Alors, c'est un concept que je viens d'inventer.
Alors lancé comme ça, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais écoutez,
j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de résonance
absolument
entre le lieu et le film.
Effectivement, peut-être que les futurs ouvrages du cinéma tiendront compte de cette définition que vous venez d'inventer à l'antenne. La
préface qu'on espère.
Oui, c'est ça. Évidemment, d'un certain, on dira le nom, mais en fait, vous aurez deviné de qui on parle. Non, la Résidence, c'est un film qui est effectivement très important, qu'on a découvert grâce à René Château. Il existait un DVD qui était de facture correcte.
Et donc, pense qu'on a parlé dans cette émission il y a très, très longtemps.
Absolument. Il me semble que c'était au milieu des années 2000, si je ne m'abuse. Voilà.
On n'a pas pu.
Donc, enfin, on peut redécouvrir ce film. Dans une copie restaurée absolument splendide. La Résidence, donc 1969, c'est vraiment un film charnière, non pas dans l'histoire du cinéma fantastique, mais vraiment dans l'histoire du cinéma espagnol. À l'époque, c'était le plus gros budget du cinéma espagnol. Le film a coûté l'équivalent de 300 000 euros, donc ça peut sembler pas grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas pour l'industrie ibérique, c'était vraiment beaucoup. C'était aussi le premier film qui avait été tourné en langue anglaise. Et c'était le film de quelqu'un que les spectateurs espagnols connaissaient très très bien, Narciso Ibáñez Serrador, dont le petit surnom était Chicho. Donc je vais juste l'appeler Narciso Ibáñez Serrador, parce que si je l'appelle Chicho ce soir, ça va être un petit peu ridicule. C'était quelqu'un qui avait pénétré les foyers ibériques depuis plusieurs années déjà, notamment avec une anthologie télé qui s'appelait Historias para no dormir, où justement il avait déjà travaillé l'épouvante, le fantastique et l'horreur. Donc c'était quelqu'un qui était pétri de cette culture-là et qui arrivait avec un bagage technique très très solide, d'autant que lui en fait vient d'une famille de comédiens. Alors il est par ailleurs d'origine uruguayenne et ses parents avaient énormément travaillé, notamment son père en Argentine. Donc Narciso Ibáñez Serrador a aussi travaillé pour la télé argentine. Donc quand il arrive en 1969 sur La Résidence, c'est quelqu'un qui a quand même 10 années d'expérience à la télévision, donc il arrive vraiment très très bien armé, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que je parlais précédemment d'Historia para no dormir, c'est que La Résidence en fait à l'origine était une histoire pour un épisode qui était destiné à cette anthologie et qui avait un titre qui était assez mystérieux et qui par ailleurs sera aussi le titre d'un autre film fantastique qui sera réalisé des années plus tard par un réalisateur argentin. Il s'appelait Mama en fait, et c'est ce titre donc pour justement un épisode de cette anthologie, s'attachait aux relations perverses entre une mère et un fils dans le cadre effectivement d'un pensionnat. Puisque qu'est-ce que raconte La Résidence ? La Résidence raconte le quotidien d'un pensionnat dans le sud de la France, où on y suit justement toute cette espèce de hiérarchie toxique. Un pensionnat qui est dirigé par la comédienne Lily Palmer, qui incarne la mère tape dure en fait de l'établissement.
Madre, pensionnat voilà. De jeunes filles.
Pensionnat de jeunes filles exclusivement, oui. Avec une présence minimale masculine évidemment, justement qui est incarné par le fils de cette matrone et aussi par une sorte d'homme à tout faire.
On ne dira rien du livreur de bois.
Voilà, exactement. ce qui est assez passionnant aussi, c'est que avant ce film-là, donc 1969, avant La Résidence, en fait, le cinéma fantastique espagnol, il pouvait grosso modo se résumer à deux noms. C'était Jess Franco et Paul Naschy. Donc c'était des films qui étaient tournés à la chaîne, de véritables films d'exploitation. Et en revanche, une production cossue comme La Résidence, c'est-à-dire avec un véritable travail sur les décors, sur les costumes. Les costumes sont absolument incroyables. On est entre la maison de poupée et l'uniforme militaire. Donc il y a cette espèce de rencontre absolument bizarroïde et contre-nature, mais qui fonctionne de manière assez démente. Donc en fait, le cinéma fantastique espagnol, d'une certaine manière, son véritable acte de naissance commercial et international, c'est la résidence qui le crée. Et par ailleurs, à l'époque, le film avait ces ambitions-là, c'est-à-dire que le film était destiné à être justement exporté et à pouvoir faire rayonner le savoir-faire espagnol, le savoir-faire de Narciso Ibáñez Serrador, qui est quand même un drôle de cinéaste, puisque ça fait partie de ses personnalités assez rares au cinéma, mais très présente à la télé, puisque c'est aussi le réalisateur des Révoltés de l'an 2000, sauf qu'il y a 7 ans qui s'écoulent en fait entre les deux films. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans les bonus, il y a un témoignage de son fils qui tente une vague explication de son absence, justement, des plateaux de cinéma, en disant que c'est là un peu la télévision, d'une certaine manière, qui l'a kidnappé. Alors, effectivement, cette explication, elle est assez floue, mais moi, ce que je trouve assez à la fois passionnant et frustrant, c'est que quelqu'un qui a accouché accouché comme ça de deux chefs-d'œuvre absolus de l'histoire du cinéma fantastique, pas qu'espagnol, fantastique, même cinéma de manière générale, et était aussi, comment dirais-je, absent. Ensuite, vu la densité, la force et la beauté de ces films-là, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que serait devenu en fait la filmographie de Serrador s'il avait continué après Les Révoltés de l'an 2000? Je pense en fait que c'est quelqu'un qui était, ça c'est ma théorie, qui s'était littéralement embourgeoisé. Par ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les bonus, on a plusieurs témoignages. On a son scénariste, on a son fils, on a le comédien qui incarne justement le fils de Lily Palmer dans le film, John Mulder Brown. Et on a aussi témoignage de celle qui est un petit peu la méchante en fait, hein, une comédienne britannique qui s'appelle Mary Maud. Et c'est la seule à pas tomber dans la géographie. Elle disait que c'était effectivement un cinéaste absolument brillant et qui avait une véritable vista sur le plateau. Mais que c'était quelqu'un qui n'était pas très très sympathique, qui était très bourgeois, avec des producteurs qui étaient un petit peu frimeurs. Et effectivement, je pense que si Serrador n'est pas revenu au cinéma, c'est que peut-être il n'avait pas vraiment le cinéma en lui, en réalité.
¿Qué secretos escondía tras los muros de la residencia?
¿Toca usted el piano, señorita?
Estudié algo hace 3 años, y luego lo abandoné.
Pero todavía recordará usted el solfeo.
Sí, creo que sí.
¿También esto era de tu madre?
Sí.
¡Vamos, póntalo! ¡Póntalo! 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 ¡La señora Ramos se quiere que eres tú la que se ve con su hijo! ¡Y todos sabían lo que hace tu madre! ¡Póntalo!
Alors, effectivement, film de dortoir, film de thriller de dortoir, giallo espagnol...
Thriller de dortoir, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. En plus, effectivement, la mise en scène est très scrutatrice. Hein. C'est qu'on a, on a des mouvements de caméra comme ça qui sont hyper élégants et qui épousent littéralement tous les couloirs de cet établissement-là. En 1969, quand le film est réalisé, la dictature franquiste, elle est quasi à bout de souffle, hein, on va dire. Néanmoins, le film est quand même très surveillé par la censure, dont Narciso Ibáñez Serrador va être assez malin. Alors, la première chose, c'est que effectivement l'action ne se passe pas en Espagne, elle se passe en France. C'était absolument inconcevable à l'époque de réaliser un film fantastique ou d'horreur qui se serait passé justement en territoire ibérique. Il fallait absolument le localiser en dehors de l'Espagne. La seconde chose, effectivement, c'est la manière dont il va jouer avec l'érotisme de manière impressionniste plutôt que frontale. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une des scènes mythiques du film, c'est la scène de douche.
Les jeunes filles donc prennent leur douche.
Voilà, dans le scénario.
En chemise de nuit.
Exactement, dans le scénario. Écrit par Serrador, même si l'idée originale n'était pas de lui, il avait volontairement écrit cette scène avec des filles qui étaient dénudées, tout en anticipant sur la potentielle réaction de la censure qui allait lui demander effectivement de couper la scène. Ensuite, il a réagi de manière assez maline, justement en décidant de filmer ces jeunes filles en robe de nuit, ce qui rend par ailleurs la scène encore plus érotique, je trouve. Par ailleurs, c'est de cette manière-là en fait qu'il va pouvoir contourner la censure tout en renforçant sa mise en scène et renforcer l'érotisme qu'il voulait justement injecter dans son script. Et puis c'est un film qui est hautement métaphorique, c'est-à-dire que le pensionnat, l'oppression, la fermeture sur soi, c'est clairement l'Espagne franquiste, évidemment, c'est un peu un lieu commun que de le dire, mais au-delà de cette métaphore politique, il y a aussi des moments qui sont absolument brillants. Il y a par exemple une jeune fille qui rejoint le jardinier dans la grange, jardinier qui passe, je ne sais plus, toutes les semaines ou tous les mois, donc les jeunes filles passent un petit peu à tour de rôle pour s'amuser avec lui, et donc toutes les filles sont au courant, et au moment où elle rejoint effectivement le jardinier dans cette étable-là, sachant qu'il ne pouvait pas filmer une scène de sexe de manière explicite, on a en contrepoint en fait toutes les jeunes filles qui sont en train de faire de la couture dans un atelier
et de songer à ce qui se passe.
De songer, on a des plans effectivement sur leurs lèvres pulpeuses, sur elles qui sont en train de coudre, qui sont en train de faire rentrer une aiguille justement dans les bouts de tissu avec cette pelote comme ça qui s'agite de manière frénétique, et puis avec à la fin une jeune fille qui se pique le doigt et qui saigne. Voilà.
Et c'est chacun sait que le doigt piqué en dit long.
Voilà, donc c'est par ce type d'astuce en fait que Serrador a réussi à construire un film qui est justement extrêmement puissant sur le plan formel et qui, d'un point de vue métaphorique, vise toujours très très juste.
Donc c'est un film à la fois sadien, puisqu'il y a un ordre clos où se distribuent, et disciplinaires, où se distribuent donc des punitions réglementaires, des séances de
flagellation. Ritualisées, oui.
Et c'est en même temps un film un petit peu, disons, une espèce de... érotique, mais d'un érotisme caché, puisque l'érotisme, comme dans tous les pensionnats, se sort de l'horaire, je veux dire. Les réunions secrètes des jeunes filles se font de nuit. C'est un film donc lesbien aussi, par ailleurs.
Oui, oui, complètement.
Ouais. Et puis, un film gothique, puisque l'esthétique générale est quand même celle d'une espèce de château, de résidence, de pensionnat de jeunes filles qui déborde vers le gothique.
Oui, d'ailleurs, par rapport à cette question du franquisme, et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans le film, c'est la façon, c'est cette systématisation, en fait, de la double scène montée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences dans le film où, en fait, il y a d'un côté la séquence, on pourrait dire officielle, la séquence franquiste, hein, c'est-à-dire que, effectivement, la répression, l'uniforme, comment il faut se tenir, le purité, etc. Et le génie politique en permanence, c'est de doubler par le montage toutes ces scènes du refoulé, de ce que pensent vraiment les gens. Ça, c'est vraiment la façon dont on pourrait dire on représente d'abord la façon la plus intelligente possible le fait que même le franquisme ou le fascisme en Italie, etc., ne dompte jamais complètement les affects. C'est qu'effectivement on a des gens qui sont dressés, en l'occurrence ces jeunes femmes, etc., mais dans leur tête ça bouillonne dans tous les sens, et je trouve que le film est malin là-dessus. Et une toute petite dernière chose qui est le cas Argento, parce que moi je découvre à titre personnel ce film via Argento, puisque dans les années 2000, au début des années 2000, il y a cette espèce de serpent de mer, de rumeur selon laquelle Argento, pour Suspiria, aurait vu, se serait inspiré, pour ne pas dire plus, de la résidence de Narciso Ibáñez Serrador. Bon, il est évident le film date de 69, il est évident qu'Argento a vu le film. Ça serait mentir que de ne pas le dire. Bon, il y a plein même des séquences d'écho, la fuite des gamines, etc., etc. Mais je pense qu'à mon avis, la différence, c'est que autant Serrador, de certaine manière, fait de ce film-là une métaphore politique, et il y a une profondeur politique au film. Chez Argento, quand il fait Suspiria, et c'est pas Suspiria qui a été le plus infusé par la résidence, c'est Phenomena. Hein. Quand on regarde le vrai film, c'est Phenomena, jusqu'au gamin dont on ne dévoilerait pas l'acte. Mrs. Bruckner d'Ara Nicolodi, c'est une enfant de Lily Palmer de la résidence. Mais Argento creuse ça non pas d'un point de vue d'un contenu politique, mais d'un contenu métaphysique. Ce qui fait qu'évidemment qu'Argento a vu le film comme tellement de cinéastes, attrape tout, etc. Mais lui, il le transforme, d'une certaine manière, il rend ce contenu-là métaphysique, là où Serrador est vraiment sur un point de vue de dénonciation plus politique.
Dernier mot.
Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est l'écriture, c'est qu'il y a un vrai désamorçage manichéen. C'est-à-dire qu'au début, on suit un personnage dont on imagine qu'elle va être sadisée, puisqu'il y a toujours une espèce de hiérarchie dans la Villénie, hein, dans ces espèces de pensionnats. Et puis en fait, au fur et à mesure où le film progresse, en fait, eh bien, le personnage principal finit par être un autre personnage, et il y a une sorte de retournement comme ça moral qui est assez brillant.
La résidence de Narciso Ibáñez Serrador, c'est chez Sidonis. On termine avec La tendresse des loups.
In Hannover, an der Leine, Rote Gasse Nummer 18, dort wohnt der Massenmörder Harman, der die Menschen umgebracht.
Herr Harman? Krieg ich morgen auch was ab?
Warte, warte, nur ein Weilchen.
Stéphane. Oui, alors, on va avoir la chance de découvrir une des personnalités les plus fascinantes de la bande de Fassbinder, qui est un acteur qui a déjà un nom extrêmement expressionniste. Hein, il s'appelle Kurt Rabb. Voilà. Puisqu'on peut le voir dans le coffret numéro 3, hein, des œuvres quasi complètes de Fassbinder, dans une sorte de comédie punk qui s'appelle le Rôti de Satan.
Rôti de Satan.
Le Rôti de Satan, où il joue un écrivain autrefois gauchiste, mais qui n'a plus de succès, et qui est devenu une sorte d'escroc qui se livre à beaucoup de larcins, et qui d'un coup a une sorte de révélation et se met à écrire un poème, avant de se rendre compte que ce poème, en fait, c'est un plagiat inconscient d'un écrivain du décadent et malarméen du début du siècle qui s'appelle Stéphane Georg.
Oui, qui est fondamental.
Voilà, et ce poème, en fait, on le reconnaît, c'est tout simplement l'Albatros de Charles Baudelaire. Donc, il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas un poème de Stéphane Georg, c'est en fait une traduction. Bref, mais à partir de là, il va se mettre à être pris d'une folie créatrice. Il va se croire la réincarnation de ce Stéphane Georg. Alors, il essaye d'être homosexuel, mais ça ne marche pas trop. Il n'aime pas trop ça, finalement. Il essaye d'avoir un cénacle autour de lui, mais c'est des acteurs qui payent. Il essaie de ressembler à ce Stéphane Georg, mais comme il est un peu gros, il se grime avec du fard pour avoir l'air émacié, bon, ce qui est assez grotesque. Mais malgré tout, il va quand même écrire un livre qui va devenir probablement un best-seller. Donc le titre de ce livre est assez banal, c'est « Le fascisme vaincra ». Mais son sous-titre est génial, alors attention, c'est « Pas de funérailles pour le chien mort du Führer ». Voilà, et donc évidemment, ça sera un gros succès. Et on va retrouver Courtrab donc dans le rôle de Fritz Hartmann dans La tendresse des loups, donc d'Uli Lommel, qui est une production Fassbinder. Alors Fassbinder qui tournait 4 films par an, hein, à peu près, ou plus. Hein. On peut dire que Stanley Kubrick a fait 13 films en 40 ans, alors que Fassbinder a fait 40 films en 13 ans, à peu près. Donc il lui restait un peu d'argent, donc il décide de produire La tendresse des loups. Et Courtrab donc va interpréter donc le crâne rasé, un peu comme Peter Lorre dans Dr Gogol, les Madorlai de Carl Freund. Il va interpréter Fritz Hartmann, donc qui est un tueur en série qui a assassiné et probablement dévoré 40 jeunes hommes dans l'entre-deux-guerres, à peu près. Et c'est de lui dont parle la comptine au début de M. le Maudit. Donc, attends encore un peu, le méchant homme en noir viendra avec sa petite hache, il fera du hachis de toi. Donc, c'est la comptine hein, des enfants, et donc c'est Fritz Hartmann. Donc, c'est un de ces individus peu recommandables, hein, qui naissent d'époque troublée. Alors, moi, le film a un peu fait penser à un film, je crois que vous aimez bien, François, qui est le docteur Petiot, de Christian de Chalonge, hein, pour son ambiance très dépressive, déprimante, et un personnage qui est à la fois horrible et pathétique, avec un côté grotesque aussi.
Mais très organisé, néanmoins.
Très organisé, bien sûr, hein, puisque Uli Lommel fait une petite torsion historique, puisqu'on va passer de l'entre-deux-guerres à l'après-guerre, en fait. Il va déplacer le personnage d'Hartmann dans l'Allemagne occupée, une Allemagne qui se livre au marché noir, et où, d'un coup, le tueur en série fait partie d'une économie parallèle, puisque il va revendre la viande de ses amants assassinés en tant que viande de boucherie. Hein, il va revendre leurs vêtements, etc. Donc il y a toute une économie qui se crée autour de ce tueur en série. Donc bien sûr, donc la mise en scène de Lommel n'est pas Fassbinder, c'est-à-dire que il n'y a pas la précision, il n'y a pas la réflexion, mais malgré tout, il arrive à créer une ambiance quand même dépressive de ruines, d'appartements, décompositions qui sont hantées, voilà, par ce vampire qui est très triste et assez pathétique, qui est joué par donc Courtrab. Donc c'est un climat. Disons qu'on sent l'influence du scénario, de Courtrab a écrit le scénario, d'un constat qui est vraiment Fassbinderien et qui concerne vraiment l'état d'esprit de l'Allemagne de l'après-guerre, donc un monde de parasites, tout simplement. Et Hartmann va être trahi par ses proches. Ça, c'est le côté cruel du conte, hein, qui est comme un conte cruel. C'est-à-dire qu'il y a toute une petite communauté de policiers, de patrons de café, de putains, de macros, de trafiquants, que Hartmann ravitaille soit en information, soit en viande ou en argent.
Oui, enfin, indicateur de police, c'est serial killer.
C'est ça qui le rapproche un peu de Petiot, d'ailleurs. Et donc, tous ces gens qui ont profité de lui, qui ont fermé les yeux sur ses crimes, décident que, vient le moment de s'en débarrasser. Et donc, ça, c'est vraiment l'Allemagne qui décide d'un coup de fermer les yeux sur ses horreurs passées, tout simplement pour reconstruire le pays.
Donc c'est une édition
qui... Carlotta.
Carlotta, avec en plus, en même temps, la sortie du volume 3 des œuvres complètes de Rainer Werner Fassbinder. Merci messieurs d'avoir ce soir célébré la fin de la saison cinéphilique de Mauvais Genre. On rouvre bien sûr la boutique, si j'ose dire, à la rentrée. On ne sait pas encore avec quoi, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème pour trouver des programmes. Merci infiniment. Je rappelle donc les sujets traités ce soir. À cause d'un assassinat et Seconds, donc paru chez Carlotta et chez Sidonis, de même que chez Carlotta et Sidonis, La tendresse des loups et La résidence de Ibanez Serrador.
On peut dire que la collection collection de Jean-Baptiste McMahoné continue.
Ah bah bien
avec,
sûr.
Avec des classiques, il y avait le mois dernier, il y avait le Colosse de Rhodes, et puis ce mois-ci, il y a Hoffman, qui est un film très rare avec Peter Sellers, qui est très différent de ses emplois habituels.
Ce sera l'objet. D'ailleurs,
Peter Sellers a essayé de se retirer de la vente tellement ce film renvoie une image juste et terrible de l'acteur.
Nouvelle émission en perspective. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Guilain Mèche, Claire Poissignon, Claire-Martin Dugard, Jean-Baptiste Torré, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo et Stéphane Duménildo vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.